Frères et sœurs, les amis, je vais m'arrêter en ce deuxième dimanche de carême, qui est le dimanche de la transfiguration, sur la première lecture du livre de la Genèse, qui pourrait nourrir notre culture générale de l'Écriture sainte. Cela dit, on peut se poser la question d'entrée de jeu, quel lien y a-t-il entre cette lecture du livre de la Genèse et l'évangile de la Transfiguration? On essaiera de voir rapidement quel lien nous pouvons faire entre les deux. Alors, de quoi s'agit-il? Bien entendu, au centre du texte, c'est la personnalité d'Abraham et donc de l'alliance que Dieu va opérer avec Abraham. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est là où nous rentrons dans la culture générale, c'est qu'à l'époque d'Abraham, lorsque deux chefs de tribus distinctes voulaient faire alliance entre elles, ils sacrifiaient des animaux qu'ils partageaient en deux, des animaux en pleine force de l'âge. Ensuite, ils étaient coupés en deux et les deux protagonistes devaient passer à pieds nus entre les deux morceaux de ces animaux. Mais derrière cela, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire tout simplement que entre les deux protagonistes, il fallait que la fidélité de cette alliance soit de toujours à toujours, sinon l'un ou l'autre aurait subi le même sort que ces animaux. Alors il y a une précision au passage que je me permets de dire, c'est ces animaux devaient être âgés de 3 ans. Nous savons que le chiffre 3 est un chiffre biblique, certes, mais tout simplement, les mamans allaitaient généralement leurs enfants jusqu'à 3 ans. Donc ce chiffre était donc synonyme et symbole d'une certaine maturité, donc l'animal de 3 ans était censé être adulte. On ne précise pas quel genre d'animaux adultes il s'agissait, mais telle est la réalité de ce symbolisme. Donc Abraham s'inscrit dans cette pratique et il va accomplir les rites habituels des alliances. Mais la grande, grande différence, c'est que cette fois-ci, un des protagonistes, c'est Dieu lui-même. Alors, tout en apparence est semblable aux habitudes, et pourtant tout est très différent. Puisque un des contractants de cette alliance, c'est Dieu. Donc, je passe sur Abraham qui prend tous ses animaux, etc. Autre point de culture générale qui n'est pas sans intérêt, c'est que la mention des rapaces est intéressante. Ça veut dire tout simplement, lorsque Abraham les chasse, j'allais dire, d'un revers de main, que il y avait un certain nombre de superstitions qui tournait autour de tout cela. Et donc, la symbolique que je trouve assez belle, par ailleurs, d'Abraham qui chasse ses rapaces, c'est-à-dire ces animaux qui n'ont rien à voir avec le sacrifice de l'alliance qui est en train de se dérouler, chasse en définitive et met au loin toutes sortes de superstitions. Deuxième point de notre méditation, ce qui est inhabituel maintenant, c'est au coucher du soleil, nous dit le texte, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Alors l'expression sommeil mystérieux n'est pas très employée dans l'Écriture sainte, mais nous la trouvons à un moment important de la création, c'est le sommeil d'Abraham. Déjà employé, hein. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'œuvre de création que Dieu a fait avec Abraham, donc avec la nature humaine, montre bien qu'il n'y a pas égalité entre l'œuvre humaine et l'œuvre de Dieu. Et comme nul ne peut voir Dieu, c'est donc un sommeil mystérieux qui a saisi Adam, comme il saisit Abraham, dans l'œuvre de l'Alliance que Dieu est en train de faire. Bon, Au passage, je rappelle une fois de plus que c'est Dieu qui a toute l'initiative et qui est le premier à faire alliance avec l'homme dans la confiance que nous rappelle le texte. Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice. Donc, il s'agit in fine de l'alliance. Et donc Dieu va promettre deux choses à Abraham, une descendance, on l'a bien entendu au début du texte, et un pays. Ces deux mots sont utilisés comme une sorte d'inclusion dans le texte. Au début, Dieu avait dit « regarde le ciel et compte les étoiles », etc. Et à la fin, il donne le pays à cette descendance. Alors, ce qu'il y a aussi de curieux, mais il faut être curieux de la parole de Dieu, c'est que cette promesse adressée à Abraham, c'est de nous rappeler qu'Abraham est un vieillard sans enfant. Et c'est ça qui peut être surprenant. Comment parler de descendance? Comment parler de donner un pays, c'est-à-dire donc une richesse, à quelqu'un qui n'a pas de descendant et donc apparemment que personne ne pourra jouir de cette alliance, puisqu'Abraham n'a pas vu l'ombre d'une réalisation, bien évidemment. Depuis des années, le pauvre Abraham marche encore en s'appuyant uniquement sur la seule promesse de ce Dieu jusqu'ici inconnu en définitive pour lui. Et pour cela, il faut se rappeler le début du récit en question et de la vocation d'Abraham. « Va pour toi, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. » Oui, et c'est depuis ce moment-là que donc Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et que nous pouvons voir apparaître la constatation suivante, c'est qu'Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Bien d'après les spécialistes de la parole de Dieu, bon, moi je ne suis qu'un très modeste étudiant de la parole de Dieu. Eh bien, les commentateurs nous disent que c'est la première fois que l'on voit apparaître le mot « foi » dans la Bible. C'est donc un moment important, c'est l'irruption de la foi dans l'histoire des hommes, au travers de notre patriarche Abraham. Hein? Le mot « croire » en hébreu vient de la racine « man », d'où vient le mot « amen », qui signifie « oui ». Je tiens fermement la foi de mes ancêtres. C'est ce qu'il faut nous dire aujourd'hui. Je tiens fermement la foi que j'ai reçue de mes parents, de mon éducation et peut-être éventuellement de personnes rencontrées ou croisées dans notre vie ou peut-être d'une école. Telle est donc l'attitude d'Abraham. Et c'est pour cela que Dieu le considère comme un juste, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vibre comme une corde doit être ajustée pour que l'instrument puisse sonner juste. Abraham est considéré comme quelqu'un qui est en accord avec le projet de Dieu. Alors, la relation, et je termine par là, que l'on peut voir entre le livre de la Genèse et ce très beau texte de la Transfiguration que nous connaissons par cœur, c'est que, d'une part, le sommeil va saisir les disciples Pierre, Jacques et Jean, puisqu'ils étaient fatigués, mais surtout, il y a deux personnages de l'Ancien Testament, et en cela, donc on voit la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que sont Moïse et Élie, qui sont, comme Abraham, deux personnages importants de l'Ancien Testament qui ont eu foi et confiance en Dieu. C'est pour cela qu'ils sont, qu'ils accompagnent, si je puis dire, la transfiguration du Christ pour que les disciples, qui sont hommes de la Nouvelle Alliance, voient bien que avant eux, leurs ancêtres, au travers des personnages de Moïse et Élie, ont eu foi en Dieu, comme ils ont foi en la personne du Fils unique de Dieu, qui est là, transfiguré. Et puis la symbolique que nous pouvons voir aussi, même s'il est un petit peu tiré par les cheveux, mais je partage avec vous ce qu'est mon sentiment, c'est que Pierre, Jacques et Jean, qui sont parmi les disciples bien-aimés du Seigneur et qui sont là à assister après leur sommeil à cette transfiguration, c'est aussi pour consolider la transfiguration à la fois la confiance des trois disciples qui sont là, mais aussi pour enraciner plus profondément leur foi, comme Abraham a pu avoir foi en Dieu. Là, cette transfiguration, elle est au service de la foi de Pierre, Jacques et Jean, de manière à ce qu'ils puissent rester fidèles jusqu'au bout, et nous savons que seul Jean est resté au pied de la croix au moment des heures difficiles de la passion du Seigneur. Alors accueillons à notre tour cette foi d'Abraham, cette foi de Moïse et Élie qui sont là présents à cette transfiguration pour que dans cette étape du deuxième dimanche de carême, eh bien, l'accent mis sur la foi, notre foi, c'est bien de la conforter, d'y rester fidèle, de nous y accrocher contre vents et marées, surtout par les temps qui sont les nôtres, et que dans cette Eucharistie, la présence réelle du Christ dans le pain et le vin vienne pas simplement conforter votre foi, la nourrir, mais vraiment l'enraciner profondément en chacun de vos cœurs, et de votre intelligence et de votre sensibilité également. Amen.